Non, j'aime bien les journalistes. Mais je déteste les questions.
Barbara, en noir et blanc.
Pas du tout, je ne vous injurie pas. Je réponds la vérité, je fais mon métier, c'est tout.
Une émission de Francis Legault.
Présentée par Anne Dorval.
Si je n'avais pas chanté, j'aurais peut-être été prostituée. D'ailleurs, chanter, faire de la scène, c'est un peu la même chose.
Barbara en noir et blanc, diffusée sur les ondes des radios francophones publiques.
Tu me paralyses en disant ça parce que je me souviens plus de ce que j'ai fait. Enfin, ça fait rien.
France Inter.
J'ai jamais eu d'adieu. Il y a eu des gens qui ont parlé d'adieu. Moi, en réalité, je me suis trouvée sur la scène de l'Olympia un soir, c'est le soir de la dernière, et tout à coup, pour des raisons que je n'ai pas envie de vous expliquer, il m'est apparu que c'était que j'avais fait l'Olympia et que c'était bien. C'était bien, que ça avait été extraordinaire et que de ce fait, je ne referais jamais l'Olympia. Et j'ai dit, j'ai fait l'Olympia, je ne referais jamais l'Olympia. C'était fantastique, je n'y reviendrai pas. Et je vais prendre des distances aussi parce que je ne veux pas être quelqu'un qui revient tous les ans comme une cousine verte, etc. J'ai dit ça. Il n'y avait pas de presse convoquée, je l'ai dit parce que je le ressentais, parce que j'ai toujours dit ce que j'ai envie de dire. Et le lendemain, j'ai vu, elle a fait ses adieux. J'ai dit bon, j'ai pas fait d'adieu.
Adieu ou pas, Barbara refait ses bagages et poursuit son mirage. Celle qu'on appelait la chanteuse de minuit ne veut pas se conforter dans le ronron du vedettariat. Pour elle, les années 70 seront des années d'exploration. Elle touche au théâtre, goûte au cinéma et ose même la chanson chorégraphiée avec son ami Maurice Béjart. Bref, Barbara prend des risques et n'a que faire des critiques.
Moi, je me balance, je m'offre à tous les vents sans réticence. Moi, je me balance, je m'offre à qui je prends le cœur indifférent. Venez, venez vite. Je veux tout, mais tout de suite, entrer dans ma danse. Moi, je me balance des graphes et des cols blancs de vos consciences. Moi, je m'en balance, mon lit est assez grand pour des milliers d'amants. Moi, je me balance au soleil de minuit, de mes nuits blanches. Moi, je me balance. Chacun sera servi, mais c'est moi qui choisis. C'est moi qui invite. C'est moi qui vous quitte. Sortez de ma danse. Moi, je me balance parmi tous vos désirs, vos médisances. Moi, je m'en balance. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Moi, je me balance au soleil de minuit, de mes nuits blanches. Moi, je me balance, chacun sera servi, mais c'est moi qui choisis. C'est moi qui invite, c'est moi qui vous quitte. Sortez de ma danse. Parmi tous vos désirs, vos médisances, moi je m'en balance. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Car je m'en balance, je me balance, je m'en balance, je me balance.
Barbara, croquée sur le vif, pendant les répétitions de la pièce Madame.
C'est le matin. C'est toujours le matin.
C'est très bien. Il faut quand même que tu t'aperçoives un peu avant ça.
Sous la direction de Sandro Cecchi, Barbara, ici avec Ivan Labejoff, commence une nouvelle carrière de comédienne au théâtre de la Renaissance.
Barbara, il y a un an, vous avez décidé d'abandonner la chanson. Vous n'avez pas de regrets aujourd'hui?
Aucun. Absolument aucun.
Qu'est-ce qui vous a conduit au théâtre?
Bien, je n'en sais rien. Ça, c'est comme quand vous me demandez ce qui m'avait conduit à la chanson. Je n'en sais rien du tout.
Son agent, Charlie Marouani.
Elle avait envie déjà d'écrire ce qu'on appelle une comédie musicale aujourd'hui. Et on a monté le spectacle dans un théâtre à Paris. Il y avait des décors magnifiques, une mise en scène magnifique, c'était des costumes magnifiques. Tout ça a été vraiment somptueux. Et ça n'a pas marché, ça c'est le mystère de notre métier. Les gens n'attendaient pas Barbara, peut-être dans une comédie musicale. Ils voulaient ses chansons, ils voulaient les chansons qu'ils connaissaient. Donc, est-ce ça l'échec? Je ne sais pas, mais ça a été un vrai échec.
Devant la grande intervieweuse Denise Glaser, une amie de longue date.
Bon, bah écoute, bon, alors donc j'ai fini cet Olympia et puis j'avais absolument aucun projet. Peut-être qu'on ne me croit pas, mais toi tu me crois? Si je te dis qu'il n'y avait rien derrière ça. Et puis je suis allée voir le Café Sneffle. Je trouvais que la pièce était admirable. Je connaissais déjà Raymond Forlani. Je lui ai dit un peu par boutade et un peu sérieusement aussi, si vous m'écrivez une pièce. Il l'a écrite. C'était Madame.
C'est toi qui lui as demandé?
C'est moi qui lui ai demandé. Il a écrit Madame, pour moi, vraiment. Ben, je me suis trouvée devant l'évidence, fallait la jouer, cette pièce. Fallait y aller. J'y suis allée. C'est très mal passé. C'est pas la peine que je te le dise. C'est
mais
très mal passé.
Moi, j'ai pas lu les critiques, mais il paraît que oui. ça a été descendu.
Moi, je les ai pas lus non plus, mais je les ai lus dans les yeux du public et des gens qui venaient comme ça. Au départ, qu'est-ce que tu veux? Moi, je ne suis pas une comédienne. Je crois que je suis Madame, mais je ne suis pas une comédienne. Alors je me suis trouvée complètement déphasée. Et ça, c'est le public qui a refusé. Il a refusé cette femme-là, qui n'était pas moi. Ce ne sont pas les critiques, parce que les critiques, finalement, elles ont été très mauvaises, à juste titre, si tu veux, mais elles ne m'ont rien appris, m'ont rien apporté. Et le public, lui, m'a apporté. Il n'a pas reconnu. Il n'a pas voulu. Alors j'ai bougé. Et je crois que petit à petit, les choses s'installent maintenant. C'est-à-dire que je ne serai sans doute jamais une comédienne. Si c'est une comédienne qu'on vient voir, il ne faut pas venir. Et si on vient en cherchant un piano et en attendant que je chante Nantes, faut pas venir non plus. Tu comprends, c'est ça aussi. Bon, qu'on ait dit que j'étais achetée dans le vide ordure, d'accord. Mais qu'on ait critiqué la pièce de Raymond Forlani, comme ça, je suis pas d'accord.
La costumière, Mine Vergès.
Alors c'est drôle, bah c'était pas bon parce que il y avait pas de metteur en scène, puis Barbara qui était une énorme vedette, non ça avait pas du tout marché, mais elle voulait tout diriger, c'était très difficile, ça a pas marché du tout, vraiment pas du tout, je crois qu'ils ont même pas fait les 30 représentations, je m'en souviens plus, mais je crois pas, elle était superbe en même temps. Il y avait Paloma Picasso qui lui avait fait les bijoux. Ouais, Paloma Picasso. Elle avait fait les bijoux de Madame. Elle était dans Madame.
Et ça racontait quoi, Madame?
Ça se passait dans un bordel. Elle, c'était la maîtresse de... Elle chantait 4 ou 5 chansons. Non.
Nous avons eu Mademoiselle Pompon, nous avons eu la grosse Charlotte. Nini de Vannes et la Zonzon qui arrosait chaque soir sa motte au cognac et au Marsala, au cognac et au Marsala. Nous avons eu Marie Ficelle qui revenait de Douala, qui revenait de Douala et qui ch'touillait le colonel. De jolies putes vraiment et un vraiment bien beau bordel. Même Cadacar, ça je peux le dire, il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil. Il n'en avait pas de pareil. Nous avons eu Lulu mange tout, Madame Frisson et Miss Poil Poil, celle qui rendait les hommes fous quand elle dansait avec ses voiles, qui cachait même pas son père ni ses 6 poils de salsifis. Nous avons eu Nini d'Honfleur, nous avons eu Nini d'Honfleur, et Rita, et Rita, et Rita qui pissait au lit. De jolies putes vraiment, il y a vraiment bien beau bordel. Même Cadacar, ça je peux le dire, il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil.
Au micro d'Émile Noël, Barbara fait le bilan de l'aventure Madame.
Ça a déchaîné une telle folie, hein, dans la presse, une telle... Ça aussi, c'est intéressant, parce que si vous voulez, ça ne méritait pas ça. Ils ont été d'une violence que je trouve... Bon, je suis très flattée de cette violence-là, j'aime mieux ça que l'indifférence. Mais c'était un peu beaucoup. Vous savez, les choses dont on dit, elles sont taillées sur mesure pour vous, c'est tellement évident qu'on passe à côté. Et moi, j'ai adoré faire ça. Mais pour moi, c'est pas du tout un échec, pour moi, c'est une chose très importante.
Et vous dites que vous allez recommencer.
Ah oui,
vous avez une idée précise ou simplement le désir de recommencer?
Sûrement, je referai autre chose, je sais pas quoi. Peut-être même, je le dis maintenant parce qu'on m'en a parlé, mais je sais pas à quoi exactement, du cinéma. Qui sait, alors que j'ai toujours dit, mais ça va être tellement difficile pour moi de faire du cinéma à cause de mon physique, ce qui est vrai. Mais puisqu'on me dit, mais non, on doit pouvoir, je sais pas quoi, c'est pas votre problème. Peut-être, moi je dis que c'est difficile d'accepter une femme comme moi à l'image, physiquement. J'aimerais beaucoup travailler, par exemple, à l'idée fantastique avec un homme comme Polanski, par exemple.
Ouais. Le bal des vampires.
J'ai pas vu. J'ai vu aucun film de lui.
Ça.
J'aimerais bien aussi voir faire une chose comme Il était une fois dans l'Ouest.
Une première à la tête de l'art ce soir. Une première et aussi une rentrée, puisque l'année dernière, si mes souvenirs sont exacts, elle avait fait ses adieux à la scène. Mais Barbara revient et Sophie Dumoulin a rencontré la longue dame brune.
France Inter.
Barbara, on répète en ce moment sur la petite scène très, très jolie, très agréable de la tête de l'art, une scène que vous connaissez déjà d'ailleurs.
Une scène que je connais, qui est à Paris, dans les cabarets, la plus jolie scène et la mieux conçue que je connaisse. Enfin, je parle pas de l'Écluse, c'est autre chose. Mais pour des raisons affectives.
L'Écluse où vous avez fait vos débuts.
Oui.
Vous serez au piano, bien sûr.
Je suis au piano et debout.
Et qui y aura-t-il autour de vous pour vous accompagner?
Il y aura Roland Romanelli, c'est tout, son accordéon, qui pour moi, c'est plus important que si j'avais un orchestre.
On ne vous a pas perdu de vue ou d'oreille durant cet été, puisque votre dernier disque est sorti un petit peu avant la saison d'été, et un titre s'en est détaché, c'est L'Aigle Noir, alors qu'il y a d'autres titres sur ce disque.
Oui, c'est très curieux. Enfin, effectivement, on a dansé cet été sur L'Aigle Noir. Je m'en suis étonnée, mais j'en suis pas. Je trouve ça bien, au fond. C'est une chanson que j'avais commencée il y a 6 ans, que j'ai finie juste avant le disque, curieusement. C'était un rêve. J'avais rêvé de cet aigle-là.
Quelques mois après l'échec de Madame, Barbara reprend pied. Elle enregistre son premier succès commercial et durant tout l'été 70, dans les discothèques françaises, on danse des slows sur L'Aigle Noir. Bien des années plus tard, à l'émission Opus, Barbara se souvient.
Ça fait quelle impression d'avoir eu une chanson qui a été un tube, L'Aigle Noir?
Mais ça m'a beaucoup étonnée, cette chose-là, évidemment. Mais il faut faire très attention à ça. C'est pour ça que cet aigle noir, moi, je ne l'ai pas chanté à la télévision, etc. Parce que si tu fais un tube, moi qui n'écris pas de tube, il va falloir en faire un second. Et celui-là, c'est fait bon aussi parce qu'il y a eu la collaboration de Colombier, qui a fait une très belle orchestration, et tous les musiciens qui étaient dessus, qui ont joué, etc. Donc, moi, j'ai oublié cette histoire, c'était un tube.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer près de moi dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. Son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant. Il m'est revenu. Dit l'oiseau, on dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois, comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, des étoiles, comme avant, dans mes rêves d'enfant. Sur un nuage blanc, comme avant,
France Inter, juin 1971. Barbara quitte à nouveau sa zone de confort. Elle se retrouve en Belgique et débute le tournage du film Franz, réalisé par Jacques Brel.
Barbara, c'est votre première expérience cinématographique.
C'est pas une expérience, j'aime pas ce mot-là, c'est une aventure.
Première aventure cinématographique avec Jacques Brel, c'est la fin du tournage. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très simple.
Je sais pas, j'ai pas compris grand-chose. Je peux pas parler du cinéma, c'est pas en faisant un film qu'on peut parler du cinéma. En tout cas, je peux vous parler de Brel, si vous voulez, je peux vous parler.
Oui, comment est-il?
Il dirige d'une façon extraordinaire, il dirige comme il chante. Enfin, il accouche ses comédiens. Et d'abord parce qu'il les aime, qu'il a une sensibilité extraordinaire. C'est un homme qui voit tout et qui entend tout et qui a un sens prodigieux déjà de la scène.
Jacques Brel dirigeant Barbara, ça doit être un bon numéro, en dehors, derrière la caméra, au-delà de l'écran.
C'est un beau numéro, oui. On se connaissait depuis très longtemps.
Hélas.
Non.
Ça n'était pas plus difficile?
Ah non, c'est beaucoup mieux.
Alors je veux savoir pourquoi.
Pourquoi c'est beaucoup mieux? Parce que je savais jusqu'où je pourrais aller avec elle. N'est-ce pas?
Elle est au moins aussi exigeante que vous.
Vous parliez de boxe tout à l'heure. Je crois qu'on boxe beaucoup mieux devant un boxeur qu'on a vu boxer déjà, qu'on connaît depuis longtemps. On sait au moins s'il est gaucher ou pas, par exemple. Avec une femme, c'est la même chose.
Elle est docile?
Même en amour, d'ailleurs.
Elle est docile?
Ah non, mais je ne lui ai pas demandé d'être docile. Je ne suis pas un marchand d'esclaves. Je lui ai demandé d'aller, elle, un tout petit peu plus loin que ce que je lui demandais.
Vous ne dites rien. Qu'est-ce que ça vous fait de vous promener avec moi?
Oh, ça me fait fier. Vous êtes tellement belle.
Oh.
Si, c'est vrai.
Vous ne savez rien de moi. Vous n'avez même pas demandé comment je vivais. Eh bien, je n'ai plus de parents. Juste un frère en Italie, mais nous ne nous voyons presque jamais. Oh, les jolis coquillages.
Interactualité 1, première.
Deux ans plus tard, Barbara se laisse convaincre par son fidèle ami Jean-Claude Brialy et décide de flirter à nouveau avec le cinéma.
Or donc, Monique Berger, vous avez vu le dernier film de Brialy, The Last Brialy Show.
Et oui, c'est-à-dire que d'Églantine à Volet-Clos, de Volet-Clos à L'Oiseau Rare, Jean-Claude Brialy affirme c'est très certain et c'est très charmante qualité de metteur en scène. Mais L'Oiseau Rare, c'est vraiment, vraiment Barbara. Une Barbara insoupçonnée, torturée, mystérieuse, écorchée vive, remarquable et inattendue.
Et Sophie Dumoulin a rencontré cet oiseau rare.
Il y a deux hommes qui m'ont parlé de cinéma. C'était Brel et Jean-Claude Brialy. La première chose s'est réalisée, Brel m'a demandé de faire France, et Jean-Claude m'a demandé de faire ce film. Et Jean-Claude était un conteur fantastique. Hein, un conteur merveilleux, il m'a raconté l'histoire. Et je trouvais formidable, mais je voyais pas très bien ce que je pouvais faire. Il me parlait d'un personnage excentrique, drôle, etc. Moi, je me vois pas du tout comme étant. Je sais que je suis drôle, mais je me voyais pas jouer ça. Et je pensais que il fallait vraiment être une comédienne pour faire ça. Et je pensais même une très grande comédienne. Je disais une fille comme Bette Davis. Enfin, oui, pour moi, c'était ce personnage-là, comme ça.
On pourrait peut-être situer le personnage alors.
C'est une diva. Une grande diva, dont on ne sait pas pourquoi au départ, on ne sait pas très bien ce qui se passe, qui ne chante plus, on ne sait pas, on ne connaît pas les raisons. Cette femme est un personnage qui apparaît assez insupportable, très insupportable au départ, qui a une espèce de fixation sur elle, enfin elle s'éveille en écoutant, on le sait, c'est une grande diva, ses disques, en humant les applaudissements, on se demande vraiment ce que c'est que cette femme qui est fixée sur elle et que sur elle, qui vit dans une chambre dont on ne sait pas si c'est une loge qu'elle a transformée en chambre ou si sa chambre qui est une loge, on ne sait plus très bien. Et cette femme vit là complètement recluse. Et il apparaît, au cours de du déroulement de cette histoire, que cette femme est en fait une malade, une très très grande malade, et qu'elle ne chante plus, et qu'elle vit là, toute sa vie, et là, dans ses souvenirs. Et qu'elle croit qu'elle chante encore.
Oui, c'est un personnage déchirant. Donc je vous ai interrompu pour que vous me le racontiez, ce personnage, au moment où vous me disiez que vous avez commencé par un peu refuser à Jean-Claude Brialy en lui disant non, il faudrait que ce soit une très grande comédienne. Oui. Là, je me permets de sourire.
Non, mais je veux dire, c'est vraiment une très grande comédienne parce que c'est un personnage, enfin c'est vraiment un rôle, je faisais un rôle formidable. Et puis je partais en tournée, je lui dis non, puis je ne veux pas le faire. Puis il m'a dit, écoute, voilà le scénario. Or, lis-le. Or, je dois avouer que j'ai pas lu le scénario. C'est-à-dire que j'ai lu une demi-page et j'ai pas du tout aimé. Enfin, cette femme, je la voyais pas comme ça. Et j'ai dit à Jean-Claude, non, moi, je comprends pas du tout ça. Laisse-moi faire comme je veux. Et alors, c'est là qu'il était prodigieux, parce que j'ai eu l'impression qu'il me laissait faire ce que je voulais, ce qui était vrai, d'ailleurs. Et une fois que les choses ont été terminées, je me suis aperçue qu'il avait complètement tout dirigé, tout ça, que c'est lui qui l'avait orchestré totalement. Alors je me suis trouvée dans un décor qui était dans une chambre, si vous voulez. Tout ça était assez proche de moi, tout en étant assez loin, parce que bon, cette femme recluse, femme chantait, chantait plus. Et j'ai vécu, si vous voulez, d'une façon pas normale, parce que mais quand même assez normale pour moi. Enfin, qui peut paraître incroyable, mais je me rends compte après en voyant cette femme que effectivement, c'est complètement fou. Mais moi, ça me paraît pas. C'est pour ça que je vous dis que j'ai pas joué, j'ai rien fait. Je crois qu'il fallait ou quelqu'un, justement, une très grande comédienne, ou quelqu'un comme moi qui sait rien et qui n'était pas du tout comédienne. Et lui, il a eu cette intelligence, et cette sensibilité-là, de me laisser vivre, de me laisser croire. Et finalement, c'était lui qui dirigeait cette chose. Et j'ai beaucoup aimé faire ça.
Il est vrai que j'ai ressenti, moi personnellement, une sorte de ressemblance. Peut-être pas du tout ni dans le caractère pris dans son détail, mais peut-être dans une démesure, dans une passion que vous avez, vous aussi,
oui.
Barbara.
Oui, peut-être, dans l'amour qu'elle a de ce qu'elle fait, de son public, cette vie qui est complètement où elle vit pour ça, qu'on se consomme, qui est toute sa vie, si vous voulez.
Et maintenant, les critiques commencent à parler de vous. Le public va vous donner son verdict. Est-ce que cela vous intéresse, Barbara ? Est-ce que vous êtes attentive à ce que l'on dit après que vous ayez tourné un film ?
Écoutez, je dois dire qu'on m'a prévenu des premières critiques. Je les ai lues absolument éberluées. J'étais très contente comme un enfant. Mais si vous voulez, je trouve fantastique. Mais je ne comprends pas, et je le dis, je ne suis pas quelqu'un de ma tête. Je ne comprends pas du tout parce qu'en fait, j'ai rien fait.
Et l'expérience cinématographique vous intéresse ? Vous allez recommencer ?
Cinéma, moi, ça m'intéresse pas. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais non, je peux pas dire que ça m'intéresse vraiment parce qu'on est prisonnier d'une chose. Il faut obéir, il faut c'est un métier de grande patience. Vous êtes là pendant 3 heures, on règle des lumières pendant 6 heures. Vous arrivez, vous dites passez-moi le sel, et on vous dit c'est très bien. Alors je comprends pas très bien tout ça. J'arrive pas. En fait, je suis pas comédienne, pas de tout mon métier. Je crois que, mais là, si vous voulez, j'ai aimé le faire.
Extravagante mais toujours lucide, Barbara revient à la musique, craignant de se répéter. Elle cherche un son nouveau. L'Aigle Noir rencontre alors un jeune musicien qui fait du mime, du cirque. Les journaux à Potin titrent « Barbara s'enflamme pour un cracheur de feu ». Son nom ? François Vertemer.
C'était dans un endroit qui était un endroit assez magique qui s'appelait l'Alcazar, qui était un cabaret. Mais je ne l'ai pas rencontré par hasard parce que ça avait été organisé par quelqu'un, une amie qui, elle, travaillait à l'Alcazar et qui avait rencontré Barbara. Et à l'époque, Barbara cherchait un auteur, et donc elle avait organisé ce rendez-vous, quoi, à l'Alcazar, quoi, voilà. À l'époque, c'était en France, on disait les 3 B, Brel, Brassens et Barbara, quoi. C'est la culture de la chanson française, quoi, d'une époque. En fait, donc oui, j'étais très impressionné. Et en fait, moi, j'étais plus Jimi Hendrix que Barbara à l'époque. Et d'ailleurs, je me souviens, parce qu'on avait mon producteur de l'époque m'avait prêté un vieux camion Citroën tout pourri, avec le siège à côté qui tenait pas, etc. Et quand on est parti, on a été chez elle et pour la raccompagner, j'étais un peu gêné, quoi, de la faire monter dans ce camion, un vieux tube. Et puis voilà, puis on a été chez elle. Elle habitait à Paris à ce moment-là, dans le 16e. Et puis donc voilà, elle m'a chanté des chansons. Moi, je lui ai chanté des chansons que j'avais écrites. Et puis je suis parti à 6h du matin. Et en fait, je suis revenu à 5h le soir. Parce qu'elle m'a dit, j'aimerais bien que tu écrives une chanson, etc. Donc je lui ai écrit une chanson qui était un peu sur un sujet qu'elle m'a commandé, entre guillemets. C'est l'enfant laboureur. Et puis en fait, ça lui a plu et de là, elle m'a demandé de faire tout l'album.
On ne touche jamais aux folies, aux orages qui chez moi naissent et meurent entre passion et rage. Et que mes grands délires me fassent toujours espoir que la raison est venue. Je demande qu'elle sorte. On ne décide pas de mes joies, de mes larmes. À chacun ses soleils et à chacun ses drames. Et si le noir pour moi est couleur de lumière,
m'importe et qu'elle aille aux enfers. Comment voudriez-vous qu'un enfant laboureur, si on lui prend sa terre, fasse pousser ses fleurs, que jamais on écoute derrière mes volets pour cueillir un piano ou voler un secret. Mes secrets sont pour vous, mon piano vous les porte, mais quand la rumeur passe, je referme ma porte.
Pour l'écriture de son prochain album, Barbara kidnappe François et l'amène dans sa nouvelle maison de Précy-sur-Marne.
Oui, oui, c'est un peu ça, parce que donc, enfin, kidnapper, faut pas exagérer. Donc à Précy, ben, c'était une maison qui était une grande maison avec un grand jardin, qui était quand même un peu éloignée de Paris. Bah donc on travaillait là-bas quoi, j'ai fait des textes, donc elle a fait les musiques, après Scheller est venu, il a habité là-bas aussi, on a travaillé là-bas, puis on a été en studio après à Paris. Il y avait un côté un petit peu reclus, ouais, c'est sûr. Moi je m'étais fait une idée de Barbara qui n'était pas la réalité. Pour moi c'était quelqu'un d'hyper sophistiqué, Donc j'ai écrit des textes, bon à part L'enfant laboureur, qui est un texte assez simple, mais les textes que j'ai écrits pour elle dans la Louve, c'est des textes assez sophistiqués. Marianne Bott, c'était en référence à un film de René qui s'appelait l'année dernière Marianne Bott. Barbara, ça m'évoquait cette ambiance-là, quoi.
Bon, moi j'ai aussi envie de parler de Vertémer. Bon, ben, vous allez me dire que c'est peut-être prétentieux parce que s'il a écrit pour moi, c'est peut-être peu. Mais moi je trouve que les textes qu'il a fait sont magnifiques. En plus, il se trouve que François Vertémer, c'est quelqu'un qui a tellement de dons, qui est doué pour tellement de choses. C'est un homme qui fait merveilleusement les omelettes. C'est un homme qui fait la cuisine et le poulet au citron. C'est un homme qui écrit formidablement bien. Moi je l'ai enfermé, mais pendant 6 mois, il a fait ce deal. Moi je le trouve magnifique. Tous ces textes-là sont des beautés, quoi.
Sur le grand bassin du château de l'idole. Un grand cygne noir portant rubis au col dessinait sur l'eau de folles arabesques. Les gargouilles pleuraient de leur rire grotesque. Un Apollon solaire de porphyre et d'ébène attendait Pygmalion assis au pied d'un chêne. Je me souviens de vous et de vos yeux de jade. La part à Marianne Bott, la part à Marianne Bott. Mais où donc êtes-vous? Où sont vos yeux de jade? Si loin de Marianne Bott, si loin de Marianne Bott. Je portais en ces temps étole d'Angoulevent qui chantait au soleil et dansait dans l'étang. Vous aviez les allures d'un dieu de lune, un cas en ces fièvres, en ces lieux, en ces époques-là. Et moi, pauvre bestole, au vent de vos envies, au cœur de vos dédales, je n'étais qu'Ophélie. Je me souviens de vous, du temps de ces aubades, la part à Marianne Bott, la part à Marianne Bott. Mais où donc êtes-vous? Vous chantez vos aubades si loin de Marianne Bott, bien loin de Marianne Bott. C'était un grand château au parc lourd et sombre, tout propice aux esprits qui habitent les ombres. Et les sorciers, je crois, y battaient leur sabbat. Quel curieux sacrifice en ce temps-là. J'étais un peu sauvage, tu me voulais câline. J'étais un peu sorcière, tu voulais Mélusine. Je me souviens de toi, de tes soupirs malades. La part à Marianne Bott, à Marianne Bott. Où donc êtes-vous? Où sont vos yeux de jade? Si loin de Marianne Bott, bien loin de Marianne Bott. Mais si vous m'appeliez un de ces temps prochains, pour parler un instant aux croix de nos chemins. J'ai changé, sachez-le, mais je suis comme avant. Comme me font, me laisse et me défend les temps. J'ai gardé près de moi l'étole d'Angoulevent, les grands gants de soie noire et l'anneau de diamant. Je serai à votre heure au grand château de Jacques, au cœur de vos dédales, là-bas à Marienbade. Danserons encore dans ces folles parades, l'œil dans tes yeux de jade, là-bas à Marienbade.
Je crois que c'était un idéal amoureux assez théorique, quoi, en fait, dans le sens où elle était très excessive de ce côté-là, mais je dirais pas elle s'inventait, parce que c'était pas une invention, mais des histoires un peu comme ça, romantico, passionnelles. En ce qui me concerne, c'est moi qui suis parti, parce que c'était quand même étouffant. Enfin, tant qu'on a travaillé, etc., c'était différent, parce qu'il y avait un but, c'était concret, on avait des choses. Et ensuite, quand on a eu fini ça, ce disque, c'était quand même assez lourd, quoi, disons, à vivre. Je sais pas comment dire, mais elle était quand même très pesante, quoi, donc c'était un peu fatigant, quoi, des fois, quoi. Et puis moi, j'étais... Je tenais à ma liberté aussi, quoi. Donc c'est moi qui suis parti, quoi.
De sa rupture amoureuse avec le jeune homme, la Louve ne conserve aucune amertume.
J'ai rencontré ce garçon qui s'appelle François Vertemer. J'écrivais pas, moi, j'ai une période où j'écrivais pas. Et puis je l'ai rencontré, tout à fait, c'est curieux. Enfin, et c'était bien parce que moi, ça m'a fait faire des musiques qui étaient différentes. Le fait d'entendre des mots différents des miens, et quand même assez proches au point de vue sensibilité, ça m'a fait faire une musique qui était aussi différente, ce qui était normal au lieu de faire un ronron autour de moi. Et puis maintenant j'ai réécrit. C'est très curieux parce que je me suis remis. Du coup, j'ai réécrit une chanson avec Gérard Bourgeois qui s'appelle L'Habit Rouge, tout de suite après le disque. C'est curieux.
L'histoire d'une chanson qui étonnamment n'a jamais inspiré les publicistes du parfumeur Guerlain.
L'homme en habit rouge, en fait, c'est une chanson qu'elle a fait à mon sujet parce que elle m'avait offert Habit Rouge de chez Guerlain. Et moi, je me baladais dans le jardin tout nu à l'époque, parce que c'était un jardin fermé, tout ça, tranquille et tout. Et simplement avec Habit Rouge. Donc, de là est venu L'homme en habit rouge, Ça s'est fait comme ça. Donc c'était habillé d'un parfum, quoi. Et c'était un peu l'histoire de notre rencontre, etc., qu'elle a fait quand on s'est séparés, je dirais.
France Inter.
Il venait, je le sais, d'ici là-bas, de n'importe où, de nulle part. Et d'ailleurs, on s'en fout. Nous, on l'avait appelé l'homme en habit rouge de cristal. Comme un ciel éclaté, comme l'aurore à la lumière. Fabuleux, il marchait, s'avançant dans le soleil. L'homme en habit rouge, je l'avais rencontré là dans un bar, sur une planète vraiment bizarre. Il fumait des fleurs aux parfums étranges et qui semblaient l'envoyer jusqu'aux anges. Qui es-tu? D'où viens-tu? Miraculeusement apparu, dis-moi, dis-moi, dis-moi d'autre part, de nulle part. Dis-moi quel est ton pays, l'homme en habit rouge. Il m'a dit, viens, je te ferai connaître ce pays d'où tu pourras enfin naître. Et j'ai vu des lacs aux couleurs étranges, et j'ai cru entendre chanter les anges. Fasciné, l'homme, celui-là en habit rouge, je marchais près de lui, rubis velours et sur le cœur des pavots rouges, de cristal et de feu, fleurs éclatées,
disparu un soir pour une planète encore plus bizarre. A fumé des fleurs aux parfums étranges, il a fini par rejoindre les anges. Apparu, disparu, magicien du matin, surgit de la lumière. Mon habit se ternit, mes fleurs se fanent et j'ai perdu ma lumière.
Charlie Marouani.
Elle était un peu dépressive. C'est une femme qui vivait seule. Elle était un peu recluse, elle aimait bien être seule. Elle aimait ça, être seule, quand elle vivait à Précy, dans cette petite maison. Mais je pense que de vivre seule trop longtemps, c'est pas bon non plus. C'est, la dépression peut arriver. Ou si elle manque d'inspiration pour une chanson, elle a envie d'écrire une chanson et ça n'arrive pas, mais c'est un peu dépressif, alors il faut aller la calmer. Moi, je prenais ma voiture, j'allais à Précy, je passais 2 heures avec elle, je déjeunais avec elle, elle faisait la cuisine, on riait bien, je repartais. 3 jours après, je revenais si je sentais qu'il fallait être là. Elle était trop fière pour demander de l'aide. Donc il fallait sentir, mais c'est les fois 3, 4 fois, 5 fois par jour, tous les jours, toute l'année. Et il est arrivé d'essayer de mettre fin à ces jours, ça. Il y a une chanson qui a été écrite à ce sujet, mais elle, elle aimait vivre.
Marie Schex.
Les côtés sombres, c'est... Bon, c'est qu'elle a fait plusieurs tentatives de suicide, c'est qu'elle a été, elle a eu des dépressions épouvantables. C'est-à-dire que les gens qui ne parlent d'elle que pour dire qu'elle est rigolote, ils l'ont pas vue quand elle était malade ou quand elle grimpait au plafond, hein, ou quand elle était en cure de sommeil dans des cliniques perdues. Elle était insomniaque, alors elle avalait elle prenait pas mal de médicaments et puis. Ça arrive, dans ce cas-là, on se réveille, on ne sait pas qu'on en a pris, alors on en reprend. Et c'est ce qui lui est arrivé, elle a fini par bouffer une boîte de somnifères, et bon. Disons, elle dégringolait, on ne savait plus quoi faire avec elle, donc elle se faisait. D'ailleurs, elle demandait elle-même, hein, à aller en cure de sommeil, enfin, à ce qu'on s'occupe d'elle, parce qu'elle n'en pouvait plus, elle ne tenait plus. Mais généralement, au bout d'une semaine, il fallait venir la chercher, elle ne pouvait plus supporter d'être dans un lieu fermé, comme ça, elle voulait retrouver sa maison. Et ça repartait comme en 14, c'est-à-dire que l'énergie revenait et elle était capable de repartir.
Lors d'une de ses tournées au Québec, Barbara est de passage à l'émission Appelez-moi Lise, animée par Lise Payette, une incontournable des archives de Radio-Canada.
Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment à la nuit, je finirai par comprendre qu'il faut que je m'endorme aussi. Avoir tant de yeux qui se ferment, couchés dans leur lit, je finirai, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. J'en ai connu des grands, des beaux, des bien bâtis, des gentils, qui venaient pour me bercer et combattre mes insomnies. Mais au matin, je l'ai retrouvé endormi dans mon lit, pendant que je veillais seul en combattant mes insomnies. À force de compter les moutons qui sautent dans mon lit, j'ai un immense troupeau qui se promène dans mes nuits. Qu'ils aillent brouter ailleurs, par exemple dans vos prairies, labourage et pâturage ne sont pas mes travaux de nuit. Sans compter les absents qui me reviennent dans mes nuits, j'ai quelquefois des vivants qui me donnent des insomnies. Et je gravis mon calvaire sur les escaliers de la nuit. J'ai déjà connu l'enfer, connaîtrai-je le paradis? Le paradis, ce serait pour moi de m'endormir la nuit. Et je rêve que je rêve qu'on a tué mes insomnies. Et que pâle, en robe blanche, on les a couchés dans un lit. Attends
sans rêver que j'en rêve, les revoilà mes insomnies. Je rôde comme les chats, je glisse comme les souris. Et Dieu lui-même ne sait pas ce que je peux faire de mes nuits. Mourir ou s'endormir, ce n'est pas du tout la même chose. Pourtant c'est pareillement se coucher les paupières closes. Une longue nuit où je les avais tous deux confondues. Peu s'en fallut au matin que je ne me réveille plus. Mais au ciel de mon lit, il y avait les pompiers de Paris. Au pied de mon lit, les adjudants de la gendarmerie. Oh messieurs, dites-moi ce que vous faites là, je vous prie. Madame, nous sommes là pour veiller sur vos insomnies. En un cortège chagrin viennent mes parents, mes amis. Gravement au nom du Père, du Fils et puis du Saint-Esprit. Si après l'heure c'est plus l'heure avant, ça ne l'est pas non plus. Ce n'est pas l'heure en tout cas, mes grands merci d'être revenus. Je les vois déjà rire de leur fine plaisanterie. Ceux qui prétendent connaître un remède à mes insomnies. Un médecin pour mes nuits, j'y avais pensé moi aussi. Mais c'est contre lui que j'ai couché mes plus belles insomnies. Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment à la nuit. J'aurais fini, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. Mais si s'endormir c'est mourir, je préfère mes insomnies. J'aime mieux vivre en enfer que de dormir en paradis. Si s'endormir c'est mourir, oh, laissez-moi mes insomnies. J'aime mieux vivre en enfer que de mourir en paradis.
Bonsoir madame, moi je vais bien.
Vous aussi ?
Moi, je vais très bien. Moi,
là, cette fois-ci, ça va passer proche. Hein.
Oui, non mais ça va très bien.
Vous étiez partie.
Très vivante, on m'aura pas comme ça. Oui. Je me sentais très...
Mais moi, je trouve ça très amusant parce que, bon, ben, finalement, c'est vrai que dans vos chansons, vous ne racontez que des choses qui vous soient vraiment arrivées.
Ah oui, c'est complètement
et là,
vrai.
Là encore, c'est vrai. Mais je vous vois très bien ouvrir les yeux et trouver les pompiers et les gendarmes.
C'est-à-dire que j'ai ouvert les yeux au moment où les pompiers n'étaient plus là, mais j'ai ouvert les yeux, j'étais très... J'ai dit pas c'est moi mes lunettes, ce qui paraissait évident. Et ce qui prouvait que j'étais très, très vivante.
Là, encore une fois, on a dit, ah, c'était probablement une tentative de suicide.
Oui, non, c'était pas une tentative, parce que j'aurais pas fait une tentative si je m'étais suicidée,
non,
je pense.
Vous l'auriez réussi.
Je l'aurais pas. Oui,
vous n'avez pas l'habitude de faire les choses à moitié.
Je serais pas réveillée, j'aurais pas le plaisir de vous voir.
Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ouais.
Il y a eu comme une pilule de trop ?
Ah non, mais tout simple, c'est simple. Oui, non, mais il y en a eu peut-être plus qu'une de trop. C'est que je suis insomniaque et que... Et que je pouvais pas dormir depuis des jours, et que j'ai pris des cachets, et que j'ai d'ailleurs dormi, j'ai failli dormir définitivement, mm-hmm. et que je me suis réveillée à l'hôpital.
C'est...
Enfin, je me suis avec les pompiers, les gendarmes, ça se passe comme
bon,
ça.
Bon.
Ah, c'était charmant.
Des fois, ça fait un peu moins de bruit, mais.
Oui, après, moi, je les ai pas vus. Enfin, charmant, d'ailleurs, exquis. Après, je les ai vus après.
Et ça, c'est le danger qui guette les gens.
Ben ça, je crois qu'il faut faire très attention à ça, parce qu'effectivement, c'est très dangereux, quoi.
Et on sent comment quand on revient?
Ah ben très bien, on est content de revoir des arbres.
Ben oui, je comprends.
Hein, oui, remarquez, il y en a peut-être là-bas aussi, mais enfin, je veux dire que je préfère ça, vous connaissez.
Oui, oui, oui. Puis là-bas, ben, vous n'êtes pas pressé, si y en a, vous attendront
bien. Non,
j'ai
le temps, Non, puis de toute façon, ce qui était merveilleux après cette histoire, c'est que quelques gens qui ont su ça m'ont écrit, mais ne partez pas, etc., restez avec nous. Alors je rassure tout le monde, je ne partirai pas ou je préviendrai, on fera une grande fête.
On fera une grande fête avant
non,
ou
je
après.
Suis très vivante, oui.
Une chanson de Brel, ça, qui dit, je sais pas, qui veut qu'on fasse une fête.
Son dernier repas, oui.
Mais je pense à Brel, qui est un grand ami à vous. Ça ne vous a pas inquiété, là, toutes ces nouvelles aussi?
Non,
au sujet
pas du
de
tout.
Brel,
je sais qu'il va très bien.
Disant qu'il était
il est
perdu,
en pleine mer
part,
et il va très, très bien.
Non,
il
va parce que vous avez tous à vouloir mourir.
Mais qu'est-ce qu'on a tous à vouloir vous tuer? Enfin, on va très bien. on est comme des pinsons.
C'est vrai que les journalistes ont l'air de vous guetter comme
ça. Ah non, mais là,
ça.
Je dois dire que c'était... Bon, c'était en plus, c'était merveilleux comme sujet. Enfin, je veux dire, c'était bien. Il y a longtemps qu'on me cherchait, là, on m'a trouvé. On m'a prêté un chagrin d'amour superbe. Que j'avais pas d'ailleurs.
Que vous auriez bien aimé avoir.
C'est dommage, parce que c'est quand on a des chagrins d'amour, c'est bien. Oui.
On écrit des belles chansons dans ce talent.
Mais enfin, je veux dire que quand on. Vous voyez, enfin, moi, je veux dire que cette mort que j'ai croisée, comme ça, m'a rendue très, 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 très gaie, finalement. Enfin, je le suis d'ailleurs.
Il m'est arrivé à cette émission de faire des entrevues avec des gens qui disaient que quand on vient tout près de mourir, comme c'était votre cas,
oui.
Là, je m'excuse d'y revenir.
Oui, mais là
vraiment, ça peut être une chose intéressante.
Oui.
Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous êtes revenu avec. Des souvenirs un peu de ce qui s'est passé.
J'ai mis très longtemps à m'en remettre. Ça a été très difficile pour moi pendant 4-5 mois, mais vraiment très très difficile.
Parce qu'une expérience qu'on m'a racontée, moi, c'est l'expérience de quelqu'un.
On voit sa vie.
Mais faut être mort, Lise.
Non, je m'excuse, mais quelqu'un qui n'est pas mort, puisqu'il était assis là pour en parler.
Non, mais on a 2 heures avant de venir.
Non, mais quelqu'un qui, sur une table d'opération, par exemple, déclaré presque mort et il se voit de l'extérieur de son corps.
Non, moi, je n'ai rien vu du tout, parce que j'avais vu, j'aurais pas pris de
temps. Vous avez dormi, finalement.
Moi, j'ai dormi.
Que vous vouliez faire.
Je suis réveillée avec une faim de loup.
Oui.
rien, et puis voilà. En fait,
comme quoi, le sommeil creuse.
En fait, c'était assez... Oui, oui, moi, enfin, le mois... Non, mais c'est parce qu'en fait, je suis partie en bonne santé, vous comprenez, moi.
Qu'est-ce que vous avez voulu manger en revenant?
Alors, je ne sais plus, mais j'avais faim. Je me dis, bougez pas, madame, enfin, laissez-moi tranquille, passez-moi mes lunettes, je ne vois rien, parce que je ne voyais rien. Et puis tout ça, mais non, vous avez été très malade, qu'est-ce que c'est? Enfin, je ne savais pas du tout, je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé. Et puis après, j'ai vu, les pompiers sont venus chez moi, j'habite un village absolument charmant, savoir comment j'allais. Enfin, c'est un mec qui, ma foi, que je regrette de ne pas avoir vu. Charmant.
Et que vous allez réinviter. Que vous allez réinviter.
Non, mais je les rencontre, mais les gendarmes aussi, ils sont bien, enfin, tout va très bien. Oui. Vous allez bien maintenant, je vais très bien, très bien.
Et on ne vous surveille pas, on ne se dit pas, elle va recommencer.
Non, mais le miracle de l'histoire, c'est que je m'en parle dans le coup de la parole, mais c'est important. C'est que je vis, moi, j'étais seule ce soir-là, et avec des chiens. Donc, les chiens, c'est pas les chiens qui téléphonent, enfin, les miens, en tout cas, ne téléphonent pas. Ou alors en anglais. On est quelquefois en allemand, mais c'est très rare. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un numéro de téléphone, voulant appeler un ami, je me sentais très mal, en disant, bon, écoutez, venez, parce que voilà. Et cet ami n'était pas là. Et en faisant ce numéro, j'ai fait un faux numéro. Ça, je l'ai su par la suite. Et à cet erreur de numéro, j'ai trouvé un homme remarquable qui m'a parlé pendant une demi-heure. Je lui disais, mais je ne suis pas bien, je voulais pas dire mon nom ni où j'habitais, etc. Toujours clandestine,
c'est
même,
fin,
dans,
oui.
même dans la
c'est
barre,
utile.
Dans la
barre, oui. C'est fin, ça,
toujours
au
mystérieuse,
mystérieuse. Je suis en train de mourir, mais je veux pas vous dire.
En mourant
je suis...
mystérieusement, il n'en parle plus.
Oui, oui, c'est ça.
Eh bien,
oui.
Cet homme-là,
toujours discrète,
m'a fait parler. Et sauvage. Toujours m'a fait parler. Finalement, j'ai fini par dire les choses. Et il m'a dit raccrocher. À ce moment-là, je suis tombée dans le coma. Et finalement, c'est parce que j'ai fait une erreur. Sur mon cadre en téléphonie, en appelant un ami, et que j'ai eu le bonheur de tomber sur un numéro où il y avait quelqu'un,
ouais.
que je suis là, ça c'est fabuleux.
Et vous n'avez pas vu ce monsieur?
Je ne l'ai pas vu parce qu'il m'a téléphoné d'une discrétion, en fait, d'une grande délicatesse, et il m'a dit non, parce que si vous me voyez, ce sera pour ça. J'ai dit non, pas du tout, j'avais vraiment envie de vous voir et de voir votre femme, etc., vos enfants, parce que c'est un homme qui avait 4 enfants. Il m'a dit non, parce qu'enfin, il m'a dit des choses très très aimables que je ne vous dirai pas là, mais ça n'est pas la peine. Ce qui est important pour nous, c'est que finalement, que c'était une erreur, mais que vous nous ayez appelé.
Heureusement qu'il n'a pas dit vous avez le mauvais numéro et raccroché.
Non, heureusement qu'il ne m'a pas dit ah, c'est vous, ben alors au revoir.
Et qu'il
n'a rien.
Ah, vous. Ou qu'il n'a pas demandé un autographe.
Dites-moi votre nom.
Oui.
Mais c'est comme ça. Ah, ben très bien, ben alors au revoir, madame.
France Inter. La petite histoire raconte que dans le vieux Montréal, une longue diva brune croise le plus célèbre gangster français. Elle se nomme Barbara et lui, Jacques Mérine. Jean-François Fontana.
Quand Barbara est venue en 1973 et que Jean-Jacques Debout assurait la première partie de son spectacle, il a été contacté par son ami d'enfance, son ami de pension, le fameux gangster français Jacques Mesrine, qui était à cette époque-là en cavale et qui se cachait quoi dans votre belle province.
Jean-Jacques Debout.
C'était l'avant-dernier jour, puisqu'on repartait après à Paris. Et puis, tout d'un coup, dans ma loge est arrivé... Et je vois un garçon, rouquin, que je n'avais pas vu, et il me dit « c'est Jackie », mais il s'était maquillé, il s'était mis en rouquin, et il m'avait dit « je ne peux pas rester trop longtemps, ça me ferait plaisir de t'inviter à dîner après avec ton amie Barbara ». Alors je lui dis « tu sais, quand elle a chanté, en général, elle rentre directement à l'hôtel, où l'attend une soupe, et... c'est pas quelqu'un qui traîne tellement, tu sais, dans les restaurants. Bah oui, mais ça me ferait tellement plaisir, surtout que je sais que vous repartez. Et... j'avais réussi à la convaincre qu'on allait dîner avec mon copain d'enfance. Elle m'avait dit, si ça te fait plaisir, je veux bien, mais c'est vraiment parce que c'est toi pour te faire plaisir. Et on a été manger dans le vieux Montréal, place Jacques Cartier. Et il lui a dit... ce qui me ferait plaisir, c'est que vous me chantiez « Dis, quand reviendras-tu ?» Parce que je pense à une femme que j'aime toujours, avec qui j'ai eu un enfant, et elle me manque beaucoup, et j'écoute très souvent votre chanson en boucle, et ça me rapproche d'elle de vous entendre. Et alors là, elle lui dit « Mais écoutez, je ne chante jamais à table, et encore moins avec la bouche pleine. » Et là, il a mis ses deux mains sur son cou, et j'ai cru qu'il allait l'étrangler. Enfin, en tout cas, il en faisait les gestes. Et je lui ai attrapé le bras et tout, et il m'a dit « je plaisante ». Et à un moment, elle me jette un regard, elle me regarde, et elle me dit « t'en as encore beaucoup comme ça à me présenter », elle me dit. C'était surréal, une ambiance, un truc de fou. On se serait cru dans un dîner de Jean Genet.
Jean-François Fontana.
Le lendemain, elle recevait un magnifique bouquet de fleurs, semble-t-il, avec des excuses de la part de Mesrine, donc au théâtre, et il y avait une bague. comme excuse. Et Barbara voulait refuser absolument cette bague, elle voulait la refuser. Bon, Jean-Jacques Debout l'a convaincu d'accepter ce cadeau un peu sulfureux. Il ne s'agissait pas de recommencer à se fâcher avec le bouillonnant Mesrine. Donc elle a accepté la bague. Et cette bague, elle l'aurait à la première occasion offerte à une admiratrice.
Drôle de façon, curieux bonhomme. Monsieur comment, monsieur Capone.
C'était Barbara en noir et blanc.
À la recherche, Marie-Pierre Duval.
À la technique, Serge Brideau et Steve Côté.
Cette émission est présentée par Anne Dorval.
Et signée Francis Legault. Un merci particulier à Jean-Luc Fonck pour sa version inédite des Insomnies.
Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment à la nuit. Je finirai, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. Avoir tant d'yeux qui se ferment, couchés dans leur lit. Je finirai par comprendre qu'il faut que je m'endorme aussi. J'en ai connu de grands, des beaux, des bien bâtis, des gentils qui venaient pour me bercer et combattre mes insomnies. Mais au matin, je les retrouvais endormis dans mon lit. Pendant que je veillais seul en combattant mes insomnies. Compter les moutons qui sautent dans mon lit. J'ai un immense troupeau qui se promène dans mes nuits. Qu'ils aillent brouter ailleurs, par exemple dans vos prairies. Labourage et pâturage ne sont pas mes travaux de nuit. Sans compter les absents qui me reviennent dans mes nuits. J'ai quelquefois des vivants qui me donnent des insomnies. Et je gravis mon calvaire sur les escaliers de la nuit. Déjà connu l'enfer, connaîtrai-je le paradis. Le paradis, ce serait pour moi de m'endormir la nuit. Mais je rêve que je rêve qu'on a tué mes insomnies. Et que pâles, en robe blanche, on les a couchés dans un lit. À tant rêver que j'en rêve, les voilà mes insomnies. Je rôde comme les chats, je glisse comme les souris. Et Dieu lui-même ne sait pas ce que je peux faire de mes nuits. Mourir ou s'endormir, ce n'est pas du tout la même chose. Pourtant c'est pareillement se coucher, les paupières closes. Une longue nuit où je les avais tous deux. Plus en fallut au matin que je ne me réveille plus. Mais au ciel de mon lit, il y avait les pompiers de Paris. Au pied de mon lit, les adjudants de la gendarmerie. Oh messieurs, dites-moi ce que vous faites là, je vous prie. Madame, nous sommes là pour veiller sur vos insomnies. En un cortège chagrin viennent mes parents, mes amis. Gravement au nom du Père, du Fils et puis du Saint-Esprit. Si après l'heure, c'est plus l'heure, avant, ce ne l'est pas non plus. Ce n'est pas l'heure en tout cas, mais grand merci d'être venu. Je les vois déjà rire de leurs films de plaisanterie. Ceux qui prétendent connaître un remède à mes insomnies. Un médecin pour mes nuits, j'y avais pensé moi aussi. C'est contre lui que je couche mes plus belles insomnies. Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment à la nuit. J'aurais fini, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. Mais si s'endormir c'est mourir, oh laissez-moi mes insomnies. J'aime mieux vivre en enfer que dormir en paradis. Si s'endormir,